n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique française, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Jean-Yves Camus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. À ce titre, spécialiste de l'extrême droite à laquelle va largement s'intéresser Dimanche Politique ce soir. Alors juste avant et avant toute chose, le RN est-il d'extrême droite? Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure le député Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Moi, je ne suis pas l'extrême droite. Le Rassemblement national n'est pas l'extrême droite. Il faut aussi, à un moment, dire les choses. D'ailleurs, regardez quels étaient les marqueurs de l'extrême droite il y a 50 ans dans notre pays. C'était un anti-parlementarisme et un antisémitisme. Pour le coup, on peut dire que le Rassemblement national est aujourd'hui le parti qui défend, je crois, le mieux nos compatriotes de confession.
Donc, quand la famille ne demande pas l'extrême droite,
le mieux le parlementarisme. Donc, voilà.
Jean-Yves Camus, qu'est-ce que vous pensez de cette définition, de cette dénégation?
C'est une définition qui, sur les deux points qu'évoque Sébastien Chenu, est exacte, que le Rassemblement national n'est plus un parti anti-parlementaire, il participe au jeu parlementaire, et passez-moi l'expression, il ne le bordélise pas. Et puis, il n'est effectivement pas antisémite, mais ça ne suffit pas. Les partis d'extrême droite sont, pour l'immense majorité des politologues, des partis nationalistes, autoritaires, xénophobes, ils peuvent l'être à des degrés divers. J'ai tendance aujourd'hui à parler, s'agissant du RN, de droite radicale. Pourquoi ? Parce que le curseur de la vie politique a changé et que sur des questions comme le rétablissement des frontières, la sécurité, l'immigration, une bonne partie de la droite a elle-même évolué. Donc droite, incontestablement, radicale parce que les propositions du Rassemblement national vont au-delà de celle des autres formations politiques.
Alors, vous parlez de l'immigration, justement. Selon une enquête de l'Institut CSA pour le Journal du Dimanche, Europe 1 et CNews, 48% des Français se disent désormais favorables à stopper totalement l'immigration, soit 7 points de plus qu'en 2021. Et dans le détail, les électeurs de la droite nationaliste plébiscitent très largement cette immigration zéro, 83% de personnes favorables. Est-ce que c'est là un marqueur supplémentaire de l'enracinement politique de l'extrême droite en France ?
Le Rassemblement national et avant lui le Front national ont sans doute été une force politique qui a considérablement contribué à mettre les questions d'identité et d'immigration au cœur du débat. Mais ça n'est pas tout. Il y a une partie de la droite, et ça se voit chez les électeurs des Républicains, qui aujourd'hui considèrent que les vagues migratoires auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous serons confrontés dans l'avenir, pour plein de raisons, y compris le changement climatique, doivent faire l'objet de davantage de filtres et que, par ailleurs, la conjoncture économique française, avec les plans de licenciement qui viennent d'être annoncés et ceux qui viendront, ne permet plus d'accueillir comme on le faisait dans les années 80-90. Il y a incontestablement, oui, je ne sais pas si on peut parler d'une droitisation, une évolution de la société française sur cette question par rapport à ce qu'était même l'attitude des Français sur la question du droit d'asile, par exemple, il y a simplement 20 ou 30 ans. Et je crois que la montée de l'islamisme radical, la montée du terrorisme, les actes terroristes qui se sont produits ici, les multiples actes délictueux commis par des personnes qui sont sous OQTF, contribuent largement à accréditer l'idée qu'il faut en finir avec l'immigration ouverte. Il y a plusieurs solutions ensuite. Soit l'immigration par quota, c'était l'idée de Nicolas Sarkozy, mais il ne l'a pas mise en place. Soit effectivement, comme l'a fait Mme Meloni en Italie, une quasi-fermeture, parce qu'il faut bien savoir que l'immigration zéro n'existe jamais. Mais en tout cas, une fermeture annoncée et effectivement mise en œuvre, ça suppose évidemment une coopération internationale, parce que c'est quelque chose qu'un pays ne peut pas faire tout seul.
Et il en sera peut-être d'ailleurs question dans les entretiens qu'aura prochainement Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avec Michel Barnier, le premier ministre français. Une rencontre est prévue dans les prochains jours.
Philippe Le Caplain.
L'actualité politique, c'est encore et toujours la recherche d'un budget pour la France. Hier, le Sénat est parvenu au bout de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2025. Il y aura un vote solennel mardi sur ce texte à haut risque pour le gouvernement, menacé de censure. Censure forcément votée par la gauche, mais que seul, elle ne peut pas avoir la peau du gouvernement. Il faudra que le RN s'y associe. Alors que peut-il ? Que va-t-il faire ? La réponse de Philippe Ballard, porte-parole du RN, député du Parti. parti. C'était dans la matinale de France Info.
Oui, on n'exclut pas de voter une censure. Pour l'instant, le texte est reparti au Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire. Mais après, un 49-3. Quand on fait un 49-3, le Premier ministre pourra mettre dans ce texte un petit peu ce qu'il a envie d'y mettre. Donc, c'est pas du bluff. On attend juste le texte final. Michel Barnier, c'est pour ça qu'on a eu cette attitude au mois de septembre dernier, en disant... Il nous respecte, il respecte surtout les 11 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement National. On va attendre. On a attendu. Pour l'instant, il n'y a strictement rien dans le texte qui correspond à nos attentes.
Alors quoi concrètement ? Explication cette fois de Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député du Nord. C'était sur LCI à la mi-journée.
On n'achète pas des opposants politiques avec de la verroterie. C'est-à-dire que c'est pas en gommant deux, trois petites choses à la marge que Michel Barnier va changer la logique de son budget. Nous, ce qu'on demande, c'est une rupture politique avec la ligne d'Emmanuel Macron. Cette rupture, Michel Barnier ne l'a pas engagée. Et ça se voit dans son budget. Les efforts reposent sur les catégories populaires, sur la France qui travaille ou qui a travaillé avec les retraités. Et tant qu'il n'aura pas réorienté la logique politique de son budget, il ne pourra pas compter sur nous. Michel Barnier est-il disposé à rompre avec cette logique macrono-libérale soumise à l'Union européenne, ou au contraire, ne fait-il que finalement qu'un exercice de style pour simplement rafistoler les trous qu'ils ont eux-mêmes créés?
Alors plus précisément, qu'attend le RN du chef du gouvernement, Sébastien Chenu, à nouveau?
Nous considérons qu'aujourd'hui, Michel Barnier ne prend pas le bon chemin. Il va falloir lui dire, nous lui avons déjà dit. Nous lui avons dit qu'il était, entre guillemets, sous surveillance au début. Nous lui avons fait des propositions. Ce n'est pas comme si on était resté les bras croisés. On a siégé à toutes les discussions budgétaires. On a fait des propositions, des amendements. On a participé. On a voulu construire un budget au bénéfice des Français. Tout ça a été jeté à la poubelle. Aujourd'hui, la situation de blocage politique, c'est celle que Michel Barnier et ses amis ont créé. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. En tous les cas, ils ont créé les conditions de tout cela.
Alors, au bout du compte, se profile une censure du gouvernement. Le président de la République s'est déjà exprimé sur ce risque.
Dans ce contexte, évidemment, je souhaite la stabilité. Le gouvernement est engagé. C'est normal qu'il y ait des débats parlementaires. Je crois que le gouvernement, avec méthode, va continuer avec les forces du socle commun qui constitue aujourd'hui cette majorité relative, et avec les oppositions d'avancer. Moi, je souhaite de la stabilité.
Jean-Yves Camus, de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Demain, Marine Le Pen sera reçue à l'hôtel de Matignon par le Premier ministre. Son trophée, ce serait quoi ? D'obtenir une annulation des hausses de taxes sur le prix de l'électricité ?
Oui, par exemple. Mais quand des responsables du RN disent que rien ne leur convient dans ce budget, avouez que c'est quand même un trophée de chasse qui est un petit peu maigre par rapport au bilan d'ensemble. Donc le risque pour le Rassemblement National, c'est d'avoir encore une fois dit « attention, je vais tirer », et au final de ne pas le faire, normalement quand il n'y a rien qui vous convient dans un budget. Et qu'on sait par ailleurs que la ligne du gouvernement de Michel Barnier ne changera pas sur les fondamentaux. La seule solution, c'est d'en tirer à un moment donné les conséquences, donc de voter la censure. Mais encore une fois, le Rassemblement National ne veut pas être celui qui met le bazar dans la vie politique. Il laisse ce rôle à la France insoumise. Et je pense que ces hésitations sont imputables précisément à cela, qui continue à s'inscrire dans le cadre de la stratégie de dédiabolisation. Mais attention au final à ne pas perdre sur les deux tableaux. Notamment celui de l'électorat populaire qui, avec ce budget, ne sera pas particulièrement soigné et qui risque de se dire enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour voter la censure ? D'autant que, à un moment donné, Marine Le Pen étant dans des difficultés juridiques que nous aborderons, normalement, le RN aurait se dire mais puisque nous n'avons finalement plus grand-chose à perdre, mon parti a un genou à terre, disait Jordan Bardella. Eh bien, autant faire un coup d'éclat et montrer que nous sommes véritablement dans l'opposition.
Mais est-ce que le RN a intérêt à provoquer une instabilité politique dont il serait tenu responsable par ceux de la droite traditionnelle et les retraités qui ont voté pour son parti aux législatives ?
C'est effectivement un risque aussi, mais à un moment donné, je ne vois pas comment on continue dans cette situation entre deux jusqu'en 2027.
Plus que jamais, le RN est en position de faiseur de roi. On l'a entendu d'ailleurs. Au début, le RN avait une écoute attentive à l'endroit de Michel Barnier. Là, le RN hausse le ton. Ça veut dire qu'il tient la survie politique de Michel Barnier dans ses mains ?
Oui, en quelque sorte. Mais quand on hausse le ton, il faut toujours faire attention à ce que derrière, les actes suivent.
Alors que le gouvernement Michel Barnier peut être renversé avant les fêtes de fin d'année, à l'occasion de la probable adoption du budget par 49-3, hein, puisqu'il y a d'abord le passage sans vote et ensuite la possibilité de déposer une motion de censure. Raphaël Devolvé, du service politique, cette question, qui agite d'ailleurs le landerneau politique, est avivée par les annonces faites par le Rassemblement national, on vient d'en parler.
Oui, la tension est brutalement montée d'un cran cette semaine lorsque Marine Le Pen, leader, rappelons-le, de 125 députés RN, a clairement dit qu'elle voterait la motion de censure que la gauche a confirmé déposer si ses lignes rouges étaient franchies. Le pouvoir d'achat ne doit pas être amputé, dit-elle dans une interview à RTL cette semaine, entretien dans lequel elle évoque notamment la taxe sur l'électricité que le gouvernement Barnier envisage de rehausser pour assainir les comptes publics, faire revenir le déficit à 5% du PIB l'an prochain. La menace est prise très au sérieux. Le président Macron, en voyage en Amérique du Sud cette semaine, a déclaré prudent vouloir la stabilité. La crédibilité de cette menace tient notamment au fait que Marine Le Pen est embourbée sur le champ judiciaire car menacée, vous le savez, de ne pas pouvoir se représenter à la présidentielle en 2027. Elle a besoin de revenir dans le jeu politique, mais aussi parce que dans les sondages, une majorité de ses électeurs, voire de Français, souhaitent désormais la censure du gouvernement Barnier.
Raphaël, dans ces conditions, Michel Barnier a-t-il d'autre choix que de donner des gages au RN ?
Eh bien, pas forcément, car il est facile de menacer, mais passer aux actes, c'est beaucoup plus difficile. Marine Le Pen, tout d'abord, elle le sait, censurer le gouvernement sans vote du budget ne provoquerait pas de nouvelles élections législatives, constitution oblige. Elle provoquerait en revanche deux probables crises, l'une de régime, l'autre financière, pas le mieux quand on veut être respectable. Michel Barnier, lui, sait qu'il n'a derrière lui qu'un semblant de coalition, un socle commun sans manuel d'utilisation, raillait une ancienne ministre macroniste cette semaine. Le leader des députés LR, Laurent Wauquiez, qui n'est même pas ministre, s'est notamment permis d'annoncer lui-même un recul sur le gel des pensions de retraite initialement envisagé. Et puis le ministre de l'économie, un macroniste pourtant, Antoine Armand, s'est lui permis de critiquer son propre budget car il remettrait selon lui en cause la politique pro-business d'Emmanuel Macron avec des hausses d'impôts. Alors céder aux injonctions du RN peut ajouter de la tension à la tension. Alors que faire ? Promettre à Marine Le Pen des lois futures sur ces thèmes clés, la sécurité, l'immigration, ce qui a déjà été fait, mais on pourrait y ajouter le passage à la proportionnelle pour les législatives, un moindre mal. Tout cela devrait se dissiper prochainement, en partie demain matin, puisque Marine Le Pen est reçue comme d'autres leaders d'opposition à Matignon pour évoquer ce fameux budget qui ressemble de plus en plus à un chemin de croix pour Michel Barnier.
Ça veut dire, Jean-Yves Camus, que demain, soit Marine Le Pen allume le feu, soit elle éteint les braises. Si elle censure avec son parti, qu'a-t-elle à y gagner ? Qu'a-t-elle à y perdre ?
Qu'a-t-elle à y gagner ? Mettre en adéquation un acte politique avec ce qu'elle dit depuis qu'elle est entrée en politique, à savoir qu'il faut une rupture nette et franche avec ce qu'elle appelle le système. Qu'est-ce qu'elle a à y perdre ? D'une part, ce qui a été dit, la France se retrouvera dans un état de crise de régime, mais enfin, on y est quand même presque déjà. Hein. Et d'autre part, c'est elle qui portera le chapeau, ce qui effectivement est assez désagréable quand on veut à tout prix se normaliser. Derrière, ça pose une question. La normalisation jusqu'où ? C'est-à-dire que finalement, cet exercice de normalisation qui a permis au RN d'élargir sa base électorale, n'y a-t-il pas un moment où il faut qu'il s'arrête ? De leur point de vue, bien évidemment. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne risquez pas de perdre, je veux dire, de perdre votre âme, ce pourquoi vous êtes un parti politique, si vous êtes tellement obnubilé par la normalisation que vous repoussez toujours les échéances de rupture, moyennant quoi ? Moyennant la promesse d'un référendum sur l'immigration, mais qui sera suivi par quelle mesure ? Parce que c'est bien d'avoir un référendum, mais ensuite, il faut mettre en musique le résultat de ce référendum. Alors la proportionnelle, oui, effectivement.
Marine Le Pen en position de force donc sur la scène politique, mais en situation de fragilité, voire d'extrême faiblesse sur la scène judiciaire. Mercredi prochain s'achèvera le procès dont elle fait l'objet avec 25 autres personnes pour détournement de fonds publics de l'Union européenne. Écoutez ce qu'en dit Sébastien Chenu sur la chaîne Info.
Marine Le Pen a une expression qui va bien, elle dit on mange l'artichaut feuille à feuille. Donc on prend les sujets les uns après les autres. Donc aujourd'hui nous avons un sujet qui est celui de démontrer notre innocence pleine et entière, celle de Marine Le Pen, celle de notre mouvement politique et celle de nos camarades qui sont poursuivis. Et pour l'instant la bataille n'est pas finie. Cette semaine ce seront les plaidoiries de nos avocats qui vont démontrer que ce procès c'est celui de la liberté parlementaire. C'est-à-dire que les sanctions qu'on requiert contre nous sont largement disproportionnées par rapport à ce qui nous est reproché.
Jean-Yves Camus, est-ce que vous diriez que le glaive de la justice est une épée de Damoclès qui menace sa vie politique, sa candidature à la prochaine élection présidentielle, puisqu'elle a été requis contre elle 5 ans d'inéligibilité ?
Alors, ça n'est pas tant l'inéligibilité qui pose problème que l'exécution immédiate et sans recours possible de la menace d'inéligibilité. Si vous êtes condamné à l'inéligibilité, mais que vous n'avez pas une exécution provisoire de la mesure, vous pouvez vous pourvoir dans toutes les voies d'appel et ensuite de cassation et espérer, ça me semble assez difficile pour la cassation, qu'il y ait une réponse avant le dépôt des candidatures 2027. À la présidentielle de 2027. Si c'est immédiatement exécutoire, ce qui est effectivement une mesure extrêmement, enfin une réquisition extrêmement lourde, et qui pourrait d'ailleurs cabrer une partie de l'électorat qu'il verrait comme une sorte de privation de sa liberté d'expression démocratique, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Il existe, c'est l'avis d'un certain nombre de constitutionnalistes, la possibilité pour Marine Le Pen de demander à être relevée par un tribunal de la peine d'inéligibilité. Autrement dit, elle garderait les sanctions financières et la sanction éventuelle de privation de liberté par assez électronique, et par contre, elle demanderait évidemment à pouvoir être candidate, alors non seulement à la présidentielle, mais attention, aux élections législatives anticipées qui pourraient arriver et auxquelles je pense qu'elle compte bien se représenter.
Alors si Marine Le Pen est condamnée et se retrouve dans une impasse politique, c'est en revanche un boulevard qui s'ouvrira pour Jordan Bardella. Le président du RN qui n'a que 29 ans serait alors propulsé candidat naturel du parti pour la prochaine présidentielle. Jusque-là, il a toujours été d'une fidélité absolue à Marine Le Pen. C'est elle qui en a fait un prince. Elle m'a placé sur un chemin de vie, écrit-il dans son livre, un chemin qui peut l'amener à être intronisé roi. Mais il lui faudra faire très attention pour couper le cordon ombilical.
Oui, mais si jamais Marine Le Pen se retrouve, si j'ose dire, vraiment inéligible en 2027, le fait que Jordan Bardella soit le candidat du parti ne sera pas une rupture au sens où cela s'est déjà vu au FN puis au RN. Ce ne sera ni le cas Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen, ni l'opposition Florian Philippot, Marine Le Pen. Il y aura une incapacité à se présenter. Dès lors, la rupture n'en sera pas une. Il se trouvera simplement qu'il faudra que le RN, dont je n'ai vraiment pas l'impression qu'il ait l'intention de faire l'impasse sur la présidentielle de 2027, ait un candidat. Ce candidat, il me semble qu'il n'y en a qu'un. C'est Jordan Bardella.
Dans son livre qui est intitulé « Ce que je cherche », qui vient de paraître, il parle de différents aspects de sa jeune vie politique. On observe qu'il n'a pas d'implantation locale, pas d'enracinement, mais est-ce que c'est nécessaire quand on voit que cela a été le lot d'Emmanuel Macron, par exemple, premier président élu, alors qu'il n'avait jamais brigué avant cela le suffrage universel ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jordan Bardella parle de ses origines, et du territoire de ses origines, mais qu'effectivement, mais qu'il n'a pas, à ce stade, d'enracinement politique local. Il est exact qu'Emmanuel Macron n'en a pas non plus, mais il se trouve tout de même qu'il a été ministre, et que l'élection de 2017 était, me semble-t-il, un phénomène un peu exceptionnel dans la vie politique française. Si vous ajoutez l'absence d'ancrage territorial et la jeunesse, parce qu'il est bien plus jeune qu'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, vous avez effectivement des handicaps. Maintenant, ce handicap de la non-implantation locale, il est compensé par d'autres formes de notoriété, et il faut avouer que le timing de lancement de son livre par rapport aux affaires judiciaires que nous venons d'évoquer est tout de même particulièrement malin.
Merci pour ces analyses et commentaires, Jean-Yves Camus de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Je signale également que vous êtes le co-auteur du livre intitulé « Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours » aux éditions Robert Laffont. C'était Dimanche Politique sur RFI.